Bonjour, bienvenue dans ce 27e épisode du Grand Oral AEF Info FNEJ, le podcast qui interroge les dirigeants de l'enseignement supérieur de gestion. Je suis Sarah Pieuvesan, journaliste à l'agence de presse AEF Info, et Jérôme Cabi, le délégué général de la FNEJ, est à mes côtés aujourd'hui pour accueillir la directrice de l'IAE de Rennes, mieux connue sous le nom d'IGR, Institut de gestion de Rennes, Hélène Renelly-Weiss. Bonjour.
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 Bonjour Jérôme. Vous avez pris la direction générale de l'IGR IAE de Rennes le 13 juin 2023, donc il y a un peu plus d'un an. Mais vous n'êtes pas une inconnue dans cette maison puisque vous en êtes diplômée et que vous y avez été nommée professeure au tournant des années 2000. Par la suite, vous êtes partie humer l'air de la capitale à l'IAE de Paris pendant presque 10 ans. Puis vous avez fait un détour par l'EM Strasbourg durant 5 ans. Et enfin, vous avez regagné vos terres bretonnes à l'IGR. Donc. Et je note d'ailleurs qu'on parle encore volontiers d'IGR plutôt que d'IAE. C'est plutôt rare dans le réseau. D'où vient ce petit nom ?
Alors, c'est le petit nom historique. L'IGR est un IAE depuis le début, un vieil IAE, puisqu'il fait partie des 6 premiers IAE qui ont été fondés en 1955. Donc, on attend l'année prochaine pour fêter nos 70 ans. Mais au départ, le réseau des IAE n'existait guère quand même. Le concept existait, mais le réseau n'existait pas. Et donc, voilà, les fondateurs sont partis sur ce nom de Institut de gestion de Rennes, qui nous a ensuite beaucoup collé à la peau. Alors, on en est fiers, parce que c'est la marque qui est la plus connue sur le territoire. Et donc, on a l'habitude, ce qui est un peu long, de s'appeler IGR IAE de Rennes. Voilà.
Bon, on va dire IGR ici aujourd'hui. Vous avez aussi étudié à l'EM Lyon, et donc on peut dire que vous connaissez presque aussi bien l'univers des grandes écoles de management que celui des IAE. En quelques mots, qu'est-ce qui les différencie le plus à vos yeux ?
Ah, alors c'est difficile parce que la réponse n'est pas si simple. Moi, quand j'ai étudié à l'EM Lyon, c'était il y a un certain temps. Le modèle des écoles a beaucoup évolué, celui des IAE un peu aussi, peut-être un peu moins. Je pense que les IAE, je pense que ce qui finalement les différencie beaucoup, c'est un rapport au marché un peu différent. Les IAE se vivent moins comme, même s'il y a une concurrence aussi pour eux, mais moins comme étant dans une concurrence, notamment entre eux. Il y a une forte solidarité dans le réseau des IAE, il y a cette notion de, voilà, d'être un service public avec des différences dans les territoires, mais moins peut-être de modèles complètement axés sur la compétition, ce qui est évidemment différent dans les écoles. Déjà à mon époque, et puis depuis, ça n'a jamais changé, ça. Les écoles sont en compétition les unes contre les autres. Voilà, il faut être meilleur que les autres. Et nous, on essaye aussi d'être meilleurs que les autres, ne nous cachons pas. Mais disons que ça structure peut-être un petit peu moins notre modèle. Et ça change peut-être un petit peu la façon dont on voit les choses.
Bon, on va le voir un petit peu en détail. Mais avant ça, je voulais aussi revenir sur le fait que vous étiez une experte en finance. Donc, vous êtes professeure de finance, notamment experte en régulation des marchés financiers, en éthique de la finance. Et plus récemment, vous êtes intéressée au lien entre finance et changement climatique. Et du coup, je voulais savoir comment vous jugiez de l'intégration de ces enjeux du développement durable dans les programmes des écoles de management et dans ceux des IAE aujourd'hui ?
Alors évidemment, c'est une question qui nous agite tous, donc que ce soit dans les écoles ou dans les IAE. Moi, quand j'ai commencé là, dans le cadre de mes fonctions de direction, et même un peu avant, à m'intéresser à ça, ça m'inquiétait un peu comment on allait s'adapter à ça. Ce que je constate, c'est que les collègues, finalement, sont très proactifs, les collègues de finance, mais aussi dans les autres domaines, hein, puisqu'évidemment, la question du marketing est aussi impactée par ces questions de transition. Donc, on a énormément d'initiatives de collègues dans tous les sens. Et donc, la question, et je pense que c'est un peu le cas dans beaucoup d'institutions, la question, c'est de structurer tout ça, et puis d'arriver peut-être aussi à rendre plus visible, plus clair pour les étudiants les choses. Mais ce qui concerne la finance, moi, je gérais un master qui s'appelait Trésorerie, quand je suis revenu à l'IAE. Et puis, on l'a transformé avec un titre un peu compliqué dans lequel il y a finance verte. Mais je vois que mes autres collègues des autres masters de finance mettent aussi beaucoup de cours autour de la transition, etc. Donc, on a vraiment plein d'actions. Après, des actions structurées un petit peu moins. Et puis, là, je pense où on bloque plus, c'est pour les choses qui sont plus fondamentales à changer, c'est-à-dire des pédagogies complètement différentes auxquelles on n'est pas habitué. Donc, là, on a des collègues de RH qui travaillent un peu sur ces révolutions pédagogiques, par exemple pour gérer l'éco-anxiété des étudiants. Bon, jusqu'ici, quand on faisait cours, on ne se demandait pas trop si ça rendait nos étudiants anxieux. Maintenant, on est obligé de se poser cette question-là. Alors là-dessus, je pense qu'on a encore des grosses marges de progression, évidemment.
Vous parlez de pédagogie. Il y a une pédagogie particulière par rapport à la prise en compte de l'éco-anxiété ?
Oui, c'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver, par exemple, ça on a fait quelques expériences là-dessus, et on a même fait une petite étude auprès de nos étudiants, on ne peut pas arriver en donnant tout un tas de mauvaises nouvelles atroces et en disant aux étudiants, vraiment, votre génération va avoir des problèmes insupportables à gérer, c'est pas de chance pour vous. Ça ne fonctionne pas bien, ça crée soit de l'éco-anxiété chez certains, soit du déni chez d'autres, qui préfèrent même pas en entendre parler. Et donc, ça suppose qu'on ait une autre approche, plus réflexive, où on admet que ça va générer des émotions, éventuellement que nous, on en a. Et ça, franchement, on n'est pas très habitué à ça, notamment les profs de finance. C'est pas leur première, c'est pas la première chose qu'ils ont appris à faire quand ils ont fait des cours de finance, d'exprimer leurs émotions.
On n'est pas ému par la finance.
On est ému, mais bon, on le montre pas trop. On est pudique.
Voilà, vous dirigez un IAE, comme vous l'avez dit, parmi les plus anciens de France. Quels sont les sujets de préoccupation les plus brûlants là, pour vous en cet hiver 2024? Est-ce que c'est votre budget, comme pour une majorité d'universités?
Non. La préoccupation principale pour moi n'est pas mon budget, parce que l'IAE est une composante de l'université, mais fonctionne sur ce qu'on appelle un budget propre, intégré même, il s'appelle. Nous, du point de vue, donc on fonctionne sur nos propres ressources, et nos ressources, pour l'instant, notre capacité à générer des ressources reste tout à fait dans les clous. L'université a beaucoup de difficultés, nous non. Alors évidemment, ça crée une tension. Usuellement, comme beaucoup d'IAE, on remonte beaucoup d'argent à l'université, ce qui en est très contente. Nous, on est très contents aussi. Mais évidemment, on veut en garder un petit peu pour nous. Mais ma tension principale n'est pas une tension budgétaire pour l'instant. J'espère que ça va durer. Moi, j'ai une tension beaucoup sur les ressources humaines, en revanche, puisque c'est l'université qui me permet ou pas d'ouvrir des postes et plutôt me permet pas, surtout en ces périodes de disette. Et ça, c'est une de mes préoccupations importantes. Et puis l'autre, c'est évidemment l'évolution des enseignements pour faire face aux différentes transitions. On a parlé un peu d'écologie juste avant, mais on a aussi des questions autour de l'IA, des questions autour de la cyber. Rennes s'est beaucoup positionnée comme ville sur la cybersécurité. Bon, ouais. Comment réussir à structurer assez rapidement des offres de formation? Donc voilà, mes questions, c'est un peu la proactivité pour être sur des domaines nouveaux de manière relativement efficace, rapidement.
Alors, venons maintenant un peu sur le positionnement de l'IGR-IAE par rapport à votre concurrent local, Rennes School of Business. Comment vous voyez les atouts respectifs, les axes de différenciation entre ces deux institutions qui, à la fin, forment dans le domaine du management?
Alors, il y a une différence assez importante qui est une différence de taille. De taille au sens propre, ce n'est pas la différence qui est de taille, mais voilà, on a beaucoup moins d'étudiants. Donc nous, on est à autour de 1200 étudiants. Je n'ai pas les chiffres exacts pour Rennes School of Business, mais ils sont beaucoup, beaucoup plus gros. Ça, c'est une première différence. Et en termes de positionnement, on est plus ancien qu'eux et on est très ancré dans le territoire. Historiquement, on va dire, là où ils sont arrivés plus récemment et où ils avaient choisi un positionnement très international. Donc je dirais quelque part, on se partage des marchés qui sont pour une part un peu en concurrence, ne nous leurrons pas, mais qui sont quand même pas exactement les mêmes marchés. Et donc on a, nous, 70 ans d'existence, beaucoup d'alumni dans la région, ce qui fait voilà, des différences assez importantes sur le mode de fonctionnement et sur le business model finalement de nos deux institutions.
Est-ce que vous recrutez des étudiants qui sont différents?
Je pense que oui, on recrute des étudiants différents. On recrute moins d'étudiants étrangers, même si on en a. On a à peu près 150 étudiants dans nos masters en anglais. Mais c'est, encore une fois, ce n'est pas à l'échelle du nombre d'étudiants étrangers qu'eux peuvent avoir. Et on recrute beaucoup, beaucoup d'étudiants de la région. J'irais même du département, hein, enfin de toute la région Bretagne, mais du département. Voilà, on est très référencés localement. Et on recrute, voilà, ils ont, une base de recrutement beaucoup plus nationale, voire internationale que nous.
D'accord. Et du coup, l'apprentissage là-dedans, est-ce que ça joue un rôle dans cette relation de concurrence avec l'école?
Alors, pour nous, l'apprentissage, c'est une source de financement très importante. Donc, on a investi cette source de financement depuis longtemps. Et ce que je disais sur mon absence de grosses difficultés budgétaires vient beaucoup de l'apprentissage. Si les choses devaient changer, ce ne serait pas forcément simple pour nous. Et pendant très longtemps, on était assez tranquille puisque Rennes School of Business ne s'était pas mis sur l'apprentissage. Aujourd'hui, c'est différent. Donc oui, ça change des choses.
Et est-ce qu'au-delà de Rennes School of Business, est-ce que, comme dans d'autres endroits, vous avez vu apparaître un secteur privé, lui, lucratif, qui est aussi sur l'apprentissage?
Tout à fait. Il y a des groupes très agressifs, comme partout dans les villes de France, hein, qui arrivent et qui sont lucratifs. J'en ai discuté avec le directeur de Rennes School of Business, qui lui, il voit une concurrence presque plus directe que nous. Mais en tout cas, oui, c'est certain, ça brouille. La difficulté principale pour nous, c'est que ça brouille les messages auprès des parents, notamment pour nous qui n'avons pas de premier cycle, nous ne commençons pas à la L1. L'offre de management est non seulement concurrentielle, mais en plus pas exactement sur les mêmes marchés, etc. Et c'est difficile d'avoir un discours clair. Donc oui, ça n'est pas très très simple, mais quand on va au salon d'étudiants, on rencontre et on parle dans des tables rondes, non seulement avec nos collègues de Rennes School of Business, ça on en avait l'habitude, mais maintenant avec des groupes comme les groupes que vous avez décrits à l'instant.
Vous formiez des espoirs par rapport à l'existence d'un label sur l'enseignement supérieur privé, du coup, ou pas du tout?
Disons qu'on suivait ça avec intérêt. Et que, voilà, c'est vrai que la question de l'apprentissage, enfin, si l'apprentissage devait être amené à être moins financé pour empêcher des effets d'aubaine d'écoles qui en vivent uniquement avec une souci de qualité qui n'est pas forcément même que le nôtre, on trouverait ça dommage.
Toujours un peu à propos de votre concurrent, il a construit beaucoup sa réputation sur l'international. Le corps enseignant, les étudiants, enfin, c'était même assez singulier à un moment donné dans le milieu des écoles dites consulaires et aussi les accréditations internationales. L'IGR a-t-elle des objectifs en la matière ?
Alors l'IGR est un peu en retard sur les accréditations. Donc moi, avant de revenir à l'IGR, comme vous l'avez dit, j'étais à l'UM Strasbourg, donc j'ai pu me frotter d'assez près comme doyenne du corps professoral à ces questions des accréditations. L'IGR n'est pas très en avance. Étant donné notre situation actuelle, on avait des problèmes de ressources humaines dans notre service relations internationales. Comme on ne peut plus être pionnier, on va être suiveur. Donc on observe de très très près ce que font les autres IAE et on a un œil voilà, plus qu'intéressé sur le début d'une démarche d'accréditation qui nous permettrait de structurer nos relations internationales. On a beaucoup de relations internationales, 80 partenaires, mais on est comme tout le monde, ces partenaires sont attentifs aux accréditations. Et donc si on veut monter en gamme, il faut sans doute qu'on y aille. Donc on est dans une réflexion autour de ça aujourd'hui.
Vous iriez, si jamais, vers l'accréditation ACSB ou EQUIS directement ? Qu'est-ce qui est dans votre scope ?
On regarderait les deux et il faudrait qu'on fasse... Alors, j'y réfléchis déjà, mais on n'a pas vraiment structuré et chiffré. Et j'ai envie de dire, on ferait ce qui serait le plus facile pour nous, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on regarde d'un petit peu plus près nos indicateurs et qu'on voit là où on est le plus avancé. Voilà, c'est vrai que les IAE se sont lancés tous sur ACSB, donc je surveille pour voir si aucun IAE n'y arrive. Bon, je me dirais que c'est peut-être la marche est très très haute, et si beaucoup y arrivent, j'aurais presque même pas le choix, c'est-à-dire qu'il faudra peut-être s'aligner. Donc voilà, pour l'instant, cette décision-là, elle n'est pas tranchée. Moi, historiquement, je viens de l'EM Lyon, et j'ai très bien connu quelqu'un qui a fondé quasiment l'EFMD et ses accréditations, qui s'appelait Gordon Shenton, donc j'étais assez attaché à un label européen. À l'EM Strasbourg, j'ai vu les différents systèmes. Pour l'instant, je n'ai pas fait mon choix.
Est-ce que ça vous ouvrirait de nouveaux marchés si vous aviez une accréditation internationale ? Est-ce que c'est ça que ça permettrait d'apporter ?
Non, ce que ça nous permettrait d'apporter, c'est peut-être de monter encore en gamme et en structuration de l'offre de formation internationale qu'on peut offrir à nos étudiants français et presque même bretons, qui viennent aussi chez nous parce qu'ils sont contents de savoir qu'ils vont pouvoir partir une année ici ou un semestre là. Et donc si on peut avoir des partenariats encore meilleurs que ceux qu'on a aujourd'hui, ce serait un facteur d'attractivité supplémentaire pour attirer les étudiants qu'on attire déjà, mais qu'on ne veut pas perdre, évidemment.
Okay. Alors, il y a quelque chose qui vous caractérise aussi pas mal dans le réseau des IAE, c'est vos relations avec le tissu socio-économique breton, qui sont denses, vous l'avez dit, depuis très longtemps. Vous êtes un IAE très ancré dans son territoire, et ça se voit en particulier au travers de votre fondation, la fondation IGR. Vous êtes, je crois, le seul IAE à être comme ça doté d'une fondation en propre. Quelle est l'histoire derrière cette structure ? Et notamment, une question dans la question, pourquoi les experts comptables, en particulier, sont-ils si importants dans votre écosystème ?
Alors, c'est historique. Hein, les diplômes d'expertise comptable ont toujours été très, très, très nombreux, importants, attirant beaucoup d'étudiants à l'IGR. Peut-être qu'il y aurait même une lecture historique sur Rennes comme ville qui n'était pas à l'origine une ville industrielle, mais plutôt une ville... Voilà, d'experts, d'avocats, de juristes, etc. Donc peut-être que même les racines sont encore plus anciennes que nos 70 ans à nous. Donc il y a vraiment cet aspect historique et les experts comptables nous accompagnent beaucoup, sont très très présents et ils sont toujours nombreux dans notre fondation. Donc si on revient sur la fondation, l'idée de cette fondation c'était de renforcer les liens avec les entreprises, des liens historiques qu'on avait depuis longtemps. Donc ces entreprises vont abonder cette fondation et puis cette fondation, qui est un organe indépendant de l'IGR, va mener un certain nombre d'actions en soutien de nos actions de formation et de recherche. C'est cette fondation qui va, par exemple, pour la recherche, donner des primes de recherche aux enseignants qui ont publié des papiers, mais aussi éventuellement financer des formations pour les enseignants qui auraient besoin de se former à des méthodes renouvelées de recherche. Elle va apporter un soutien à nos actions pédagogiques avec beaucoup de certifications qu'on offre, entre guillemets, à nos étudiants grâce, en fait, au soutien financier de la fondation. Et puis, elle va avoir un rôle social aussi qui est important. Elle va offrir des bourses aux étudiants. Et elle va être très en lien avec à la fois nos alumni et notre vie associative. Donc, elle va organiser quelques événements autour de nos associations pour primer, par exemple, des projets d'étudiants. Voilà. Et donc, c'est un très bon système de maillage entre nos différentes parties prenantes, l'école ou l'institut. Certains préfèrent dire institut, d'autres écoles, chez moi. Les étudiants dans la vie associative, les alumni et les entreprises.
Et pour donner quelques chiffres à nos auditeurs, est-ce que vous pouvez un peu nous rappeler les grandes masses, c'est-à-dire votre budget de fonctionnement, et puis ce que ça représente, l'apport de la fondation chaque année, par exemple ?
Alors notre budget de fonctionnement, le budget propre, hein, celui qu'on génère avec nos propres ressources, c'est environ 4 millions d'euros.
Ça, c'est hors masse salariale.
Ça, c'est hors masse salariale. La masse salariale, enfin, dedans, il y a de la masse salariale, mais la masse salariale qui est les titulaires, évidemment, ne rentre pas là-dedans. Donc, c'est 4 millions d'euros. Et notre budget de fonctionnement, c'est à peu près 1 million d'euros. Le reste sert justement à payer, en fait, les coûts des formations, et notamment la masse salariale. Et puis, la fondation va avoir un budget global de contribution chaque année autour de 100 000 euros. Donc c'est à la fois très important comme soutien financier, ça nous permet de mener des actions qu'on ne pourrait pas mener si la fondation n'était pas là, mais ce n'est pas que du financier, c'est beaucoup aussi du contact, de la relation avec ce tissu.
Ils sont présents dans votre gouvernance ?
Ils sont présents dans notre gouvernance, donc dans notre conseil d'administration. Nous, moi je siège aussi dans leur COMEX, voilà oui, ce qu'on peut dire, oui ils sont présents.
Et est-ce que vous diriez que c'est un modèle, cette alliance entre NIAE et une fondation qui... fait réfléchir d'autres IAE qui inspirent. Est-ce que vous êtes
à la dernière AG des directeurs, oui, c'était un modèle qui faisait réfléchir. Tout le monde m'a posé beaucoup de questions sur ce modèle effectivement unique. J'ai découvert à cette occasion qu'il était unique parce que je ne le savais pas. Et donc oui, c'est un modèle qui fait réfléchir et c'est un modèle, moi je trouve, dont on n'a pas encore tiré toutes les possibilités. Donc j'ai quelques projets aussi, notamment puisque je disais que c'est aussi un lieu de connexion entre les parties prenantes. On essaie de plus en plus de mettre la recherche là-dedans. Et les membres de la fondation se trouvent intéressés par des retours un peu sur des formes de retours sur la recherche qui est menée à l'IAE, qui parfois peut paraître à certains un peu mystérieuse. Donc, par exemple, dans les COMEX, on fait des petites présentations adaptées, on va dire, au format, sur les recherches menées à l'IAE.
Et votre université trouve aussi que c'est une fondation unique ?
Alors, notre université trouve tout à fait que c'est une fondation unique. Notre université n'a pas toujours été absolument fan de notre fondation, parce qu'il y a évidemment une fondation aussi de l'université. Et voilà, notre université a tendance à penser que ça pourrait brouiller les messages. Mais ce n'est pas une analyse que nous partageons trop.
Et si on généralise sur la relation entre l'IGR, IAE et l'université, vous la qualifieriez de comment ? Apaisée, sereine, tendue ?
Non, c'est une bonne relation. On a la chance d'avoir un président qui est lui-même originaire de l'IAE de Rennes. Voilà, donc il comprend bien les gestionnaires. Je pense que globalement, son équipe plus largement comprend notre business model. Je dirais, si j'étais un peu taquine, qu'ils ont de bonnes raisons de le comprendre, parce qu'encore une fois, financièrement, ils ont tout intérêt à ce que l'IAE continue de bien se porter. Et parfois, évidemment, il arrive qu'il y ait quelques tensions, notamment sur les ressources et notamment sur les ressources humaines. Je comprends, évidemment, moi, de mon côté, les contraintes de l'université. Et je trouve normal que l'IAE prenne sa part. Mais je pense qu'il faut toujours rappeler que ce modèle est vertueux et que si on nous laisse encore nous développer plus, il sera encore plus vertueux.
Ça fait deux fois que vous précisez que vous remontez pas mal de ressources à l'université. C'est combien ?
C'est trop. Je n'en dirai pas plus.
Alors, peut-être
non, c'est
part,
beaucoup.
Alors
les Ben c'est ça, c'est en part que c'est trop. Je ne veux pas forcément donner de chiffres ici, mais c'est trop. Si le VP de l'université en ce sens, il ne va pas trouver que c'est trop. Mais en part de notre budget, oui, c'est beaucoup.
Et est-ce en que partie, c'est la moitié, c'est le partie, tiers, c'est les trois quarts
C'est plus que la moitié. D'idée. C'est plus que la moitié. Et la question de ça, c'est qu'il faut, ce que j'essayais d'expliquer, et qui est compris, c'est-à-dire que ce n'est pas l'université qui nous saute dessus pour nous arracher tout notre argent. Ce n'est pas non plus ça qui se passe. C'est que notre capacité de développer des nouveaux projets est freinée par le fait qu'on manque de ressources humaines, côté enseignants, mais aussi côté BIATS. Et du coup, quelque part, on a trop d'argent pour les projets qu'on est capable de mener. Et ce trop d'argent, l'université, évidemment, est là pour le récupérer. Mais il ne nous le rackette pas, hein. C'est pas ça que je veux dire. Je veux juste dire que si on nous donnait des ressources, on pourrait remonter plus d'argent, mais un petit peu moins en proportion, ce qui me conviendrait mieux.
BIAT, ce sont les administratifs.
Oui, pardon pour les acronymes.
Alors, vous l'indiquiez tout à l'heure, vous n'êtes pas présent sur le post-bac à ce jour.
Non.
Est-ce que c'est un projet, justement ?
Oui, ça, c'est une de nos grosses interrogations, alors, qui n'est pas que la nôtre, qui est partagée par un certain nombre d'autres IAE qui sont dans la même situation que nous. Et donc, voilà, on réfléchit très fortement à la création, à ce qu'on pourrait faire pour être présent sur dès la L1, ce qui nous permettrait d'avoir un discours plus clair. Là, c'est toujours pareil, c'est qu'on arrive bien à attirer des étudiants en L3 et en M1. On n'observe pas pour l'instant du tout de baisse de notre attractivité. Mais pour les attirer, il faut qu'on tienne un discours dont nous-mêmes, parfois, quand on s'entend parler, on trouve que c'est bien compliqué. Donc c'est vrai que si on était sur la L1, post-bac, on serait plus visible et ce serait plus facile pour tout le monde. Voilà. Après, là aussi, des contraintes de ressources, des contraintes de positionnement de cette licence dans l'université sont posées à nous. Donc c'est un projet sur lequel on travaille intensément, mais que pour l'instant n'a pas vraiment de solution.
Il y a quelque chose qui n'est pas forcément compréhensible pour un auditeur qui ne connaît pas très bien le milieu, c'est de dire à la fois que vous avez pas mal de ressources propres, mais que vous ne pouvez pas avoir les moyens humains pour faire ce que vous aimeriez faire. Expliquez juste cette un peu contradiction apparente.
La raison, elle est un peu juridique, c'est que les IAE sont des composantes avec une forme d'autonomie, mais ce n'est pas une autonomie complète. Et c'est notamment pas l'IAE qui est employeur en direct. Donc c'est l'université qui est employeur, c'est donc l'université qui décide si elle veut recruter quelqu'un. Alors évidemment, on la pousse en disant « nous, il faut recruter quelqu'un pour nous ». Et quand la situation financière de l'université est bonne, ils entendent cet argument. Quand elle est moins bonne, ils l'entendent moins. Et donc le problème, c'est que moi, je ne peux pas, je n'ai pas la décision de recruter qui je veux, quand je veux. Et c'est ça la limite, évidemment. Donc si je veux ouvrir une licence et si j'ai besoin de ressources supplémentaires, il faut que j'aille les négocier.
Avec l'université.
Alors imaginons que vous obteniez toutes ces ressources. Quels seraient vos projets les plus structurants?
Alors, il y aurait ça, il y aurait la question du premier cycle, qui est quand même un projet très structurant. Il y a le projet des accréditations dont on a parlé, parce que ça nécessite aussi des ressources pour monter, encore une fois, améliorer nos relations internationales. Et toujours sur le volet international, on a des projets qui sont intéressants aussi autour de nos masters en anglais pour les étudiants anglophones. Et si on avait toutes les ressources, comme vous avez dit, donc si le Père Noël était passé, on développerait encore dans nos diplômes internationaux.
On arrive déjà à la fin de cet entretien. Il nous reste une question à vous poser pour terminer ce podcast. Quel serait le conseil de lecture que vous pourriez donner à nos auditeurs pour prolonger un petit peu cet échange?
Bon, je vais donner un conseil philosophique, car dans mes fonctions, il est bon de faire un peu de philosophie. Et ce sera un conseil autour des stoïciens que je relis en ce moment, avec beaucoup de plaisir. Donc Marc Aurèle, par exemple, et Sénèque. Alors Marc Aurèle, on voit là un pauvre empereur qui est en proie à bien des ingrats, comme il le dit, des fourbes, et qui nous explique comment il faut faire pour survivre dans ce monde difficile autour de lui. Alors on sent bien qu'il essaye de se convaincre lui-même, on n'est pas sûr que les conseils qu'il donne soient vraiment applicables, mais en tout cas c'est intéressant. Puis alors Sénèque est encore plus drôle, parce que là on voit le Sénat romain, et le Sénat romain ressemble quelquefois à des cénacles universitaires. Donc c'est très réjouissant de voir que dans l'Antiquité, on avait des problèmes pas si différents d'aujourd'hui. Et je conseillerais à beaucoup de gens qui lisent des livres de développement personnel de retourner aux sources, parce que je suis très très surprise de finalement tout ce que le développement personnel actuel a emprunté aux stoïciens. Donc voilà, je m'emploie à devenir stoïcienne. Je n'y suis pas encore.
Des livres d'actualité, finalement.
Voilà, exactement.
Merci beaucoup, chère Hélène Reinli-Weiss, de votre visite au studio Module. Merci à vous, Jérôme. Je vous donne rendez-vous le mois prochain avec un nouvel invité. Et d'ici là, portez-vous bien.
Merci beaucoup.